Chapitre 25. Opération retournement. 2 sur 2. Dans la salle de bal de l'hôtel des Bergues, en ce soir de la réunion annuelle de l'Association des banquiers genevois, la tablée avait écouté dans un silence religieux le récit de Lève.
Donc, vous vous destinez à diriger cet hôtel ?
Demanda Levovitch, la présidente de la banque Barnes. Peut-être. Ça m'aurait plu de diriger le palace de Verbier. Mais la vie en a décidé autrement. J'y suis resté jusqu'à mes 26 ans, jusqu'à ma rencontre avec Abel Ebesner, le père de Macaire. C'est lui qui m'a introduit à la banque Ebesner. J'y ai ensuite gravi les échelons.
Et quelle ascension ! Souligna l'un des banquiers pitou, impressionné.
Les convives, terminant leur dessert sans faire un bruit, dévisagèrent Levovitch avec admiration. Il avait parlé durant tout le repas. Il avait bien proposé d'écourter, mais chaque fois qu'il avait dit, pour faire bref, il avait provoqué le tollé de son auditoire qui en redemandait.
« En tout cas, votre maman serait fière de vous !»
dit une femme depuis une autre table en s'essuyant les yeux.
« Et votre papa, il habite toujours à Verbier ?»«
Papa est mort. Il est mort à cause de moi. » Un silence gêné plana autour de la table. Puis le président de l'Association des banquiers genevois prit le micro pour annoncer que les cafés et les thés étaient servis dans le salon Léman, attenant à la salle de bal, pour un échange convivial entre tous les membres. Les invités se levèrent et se dirigèrent bruyamment vers le grand salon feutré. Lève se laissa porter par la foule. Dans le salon Léman, il se fit servir un expresso qu'il sortit boire sur le balcon. Il était seul dans l'air glacé. Il admira le lac Léman et la rive gauche de Genève qui se dressait face à lui. Il trouva sa ville plus belle que jamais. Soudain, je m'interromps dans mon roman. Seul dans ma pièce, dans le calme de la nuit, je pense à Genève, ma ville chérie, et je la remercie. Ville de la paix et des gentils, qui a accueilli les miens et nous donna une patrie. Sur le balcon, Levovitch leva la canne de Tarnogol dans les airs comme le bâton de Moïse et la lune fit étinceler les diamants. Il se sentit gonflé d'une puissance qu'il n'avait jamais connue. Puis, repensant soudain aux 16 dernières années écoulées, il se laissa envahir par la nostalgie. 16 ans plus tôt, premier grand week-end d'Anastasia à Verbier, le samedi soir. Dans la salle de bal du palace de Verbier, au milieu des convives du grand week-end de la banque Ebesner, il dansait, superbe. Deux imposteurs magnifiques. Anastasia, s'accrochant au corps de Lève, ferma un instant les yeux. Elle était dans les bras de l'homme de sa vie, elle le savait. Observant la foule des banquiers autour de lui, Lève murmura à l'oreille de sa promise « Je deviendrai riche et puissant pour toi, Anastasia. » Pour la première fois, il ne se satisfaisait pas de sa condition. « J'ai envie de toi, » lui murmura alors Anastasia. « Retrouve-moi dans un quart d'heure au bas des escaliers de service, » lui dit Lève. Anastasia, les yeux brillants d'amour, le cœur battant, acquiesça. La chanson toucha à sa fin et ils se séparèrent pour mieux se retrouver. Anastasia retourna à sa table où sa mère l'accueillit avec un sourire, tandis que Lève, lui, sortit discrètement de la salle. Au moment d'en passer la porte, une main le saisit et l'entraîna à l'écart. C'était Monsieur Bisnard, le directeur des banques, taillé comme une armoire à glace. Il était hors de lui.
« Qu'est-ce que tu fous à danser avec les invités, espèce de petit couillon ? »
s'écria-t-il. Signor Tarnogol apparut à cet instant avec un sourire mauvais.
« C'est bien lui, » dit-il à M. Bisnard. « C'est un de vos employés, non ? Pourriez-vous m'expliquer pourquoi il est en train de danser avec les clients ?»«
Je vous présente toutes mes excuses, M. Tarnogol, » dit Bisnard sans lâcher Lève. « Ce malotru est bien un employé du palace. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir des sanctions. »
Lève n'osa pas faire un scandale et laissa Bisnard l'emmener à travers les escaliers de service jusqu'à une salle de plonge dont les éviers débordaient de vaisselle sale.
« Pour qui te prends-tu ? »
donna Bisnard.
« Parce que tu es le chouchou de Monsieur Rose, tu te crois tout permis, hein ? Toujours à faire le malin, toujours à ramasser les gros pourboires. On va voir ce que Monsieur Rose dira quand je lui apprendrai que tu t'es incrusté au bal Ebesner, à danser devant tout le monde. Ça va faire du grabuge, crois-moi. Peut-être que je devrais même lui téléphoner sur le champ. »
Lève savait qu'il avait transgressé les règles d'or de l'hôtel. « Écoutez, Monsieur Bisnard, » implora-t-il, « je ferai ce que vous voulez, mais ne dites rien à Monsieur Rose, s'il vous plaît. Il serait affreusement contrarié par mon comportement. »
« Il fallait y réfléchir avant, »
S'il vous plaît, supplia Lev, votre prix sera le mien. Je vous verserai tout mon salaire de décembre et ma prime de Noël avec, si vous ne dites rien à Monsieur Rose.
Je veux 3 mois de salaire et ta prime, exigea Bisnard.
C'est d'accord.
Bisnard eut un sourire satisfait.
Est-ce que je peux partir maintenant?
Demanda Lev, qui ne pensait qu'à rejoindre Anastasia.
Pas avant d'avoir fini la vaisselle,
décréta Bisnard, quittant la salle de plonge, en fermant la porte à clé derrière lui. Anastasia attendit en vain pendant 1 heure et demie dans les escaliers de service. Elle comprit qu'il ne viendrait pas et s'en alla retrouver sa mère avant que celle-ci ne s'impatiente.
« Ah, te voilà !»
lui dit Olga lorsqu'Anastasia apparut dans la salle.
« Viens, il est tard, rentrons. Départ pour Genève demain matin à la première heure.
Où est ce Kontromanov ? J'aurais aimé le saluer. »
Il a disparu. « As-tu son adresse ? Son numéro ?
Non. »
Tant pis pour lui. Il perd un point. Au fond, je le trouvais prétentieux.
Pas comme ce Klaus, poli et élégant. La grande classe. Il t'a cherché partout.
Il voulait te saluer dignement. Je lui ai dit que je te transmettrais le message. Et du coup, nous sommes convenus d'un déjeuner à Genève mercredi prochain.
Le restaurant du Beau Rivage.
Son idée.
Le Beau Rivage, rien que ça. Juste toi, lui et moi.
C'est lui qui invite.
Élégant, ce Klaus. Anastasia suivit docilement sa mère. Elles récupérèrent leurs manteaux de fourrure au vestiaire, puis quittèrent le palace. Elle se sentait très triste, comme vide. Pourquoi l'avait-il fait faux bond ? Elle songea qu'il ne l'aimait pas autant qu'elle. Lev passa des heures à nettoyer la vaisselle. Lorsqu'il eut terminé et qu'il put enfin regagner la salle de bal, la fête était terminée depuis longtemps. Les lieux étaient déserts, tout était éteint. Le palace dormait déjà. Anastasia s'était envolée. Il s'était perdu. Lev chassa ce souvenir de sa mémoire. Soudain, la porte du balcon s'ouvrit et il vit apparaître Anastasia. Elle vint contre lui. Ils ne se touchèrent pas de peur qu'on puisse les voir, mais ils semblaient s'enlacer. Lev plongea ses yeux dans les siens. « Tu ne m'as jamais dit ce qui était arrivé à ton père, » lui dit-elle. « Ce qui nous arrivera à tous, il est mort. » Il posa doucement sa main sur son cœur. « Je voudrais soigner tes blessures, Lev. » Lev sortit un paquet de cigarettes. Il en tendit une à Anastasia. Ils fumèrent en silence. Ils étaient bien. « Quand partons-nous ? » demanda Anastasia à mi-voix. Il se pencha à son oreille et lui murmura sa réponse. Anastasia eut un sourire radieux. Elle lui prit la main. Ils étaient seuls au monde. Mais soudain, la porte du balcon s'ouvrit bruyamment et Macaire déboula sur le balcon, son manteau sur les épaules et celui d'Anastasia sous le bras.
« Ah, tu es là !»
dit-il à sa femme d'un ton impatient.
« Tu fumes maintenant. Eh bien, bravo. Allez, viens, on s'en va. »
Il était de très mauvaise humeur. Rien ne s'était passé comme prévu. Il salua Lev d'un geste rapide et tourna les talons, entraînant sa femme avec lui. Alors que les époux et Besnard descendaient les grands escaliers en marbre, Lev les rattrapa, agitant la canne de Tarnogol en l'air, comme pour se signaler.
« Attends, Macaire, » dit-il. « Il faut que je te parle. »«
Qu'y a-t-il encore ?» demanda Macaire irrité.
« Je voudrais te parler de cette histoire de présidence, mais loin des oreilles indiscrètes. »«
Allons au salon du four, » suggéra Macaire, désignant du regard les canapés confortables de la pièce à quelques pas de lui.
« Non, trop de va-et-vient. Allons plutôt marcher. »
Les deux hommes sortirent dans la nuit glaciale. Ils s'éloignèrent de l'hôtel et marchèrent le long du Rhône. Macaire, malgré son épais manteau, grelottait comme un pauvre diable. Lev, lui, remonta le col de son veston et y enfonça son cou pour se protéger un peu du froid.
« Je t'écoute, » dit Macaire, alors qu'il déambulait sur le quai désert.
« Ne t'en fais pas pour Tarnogol, » le rassura Lev. « Je vais lui parler. »«
Et s'il ne veut pas entendre raison ?»
demanda Macaire. « Je l'assommerai avec sa grosse canne, » plaisanta Lev. Lev, pour ajouter à sa blague, se replia sur lui-même et agita nerveusement sa canne comme Tarnogol le faisait souvent.
« Je suis Tarnogol !»
ricana-t-il en imitant mal l'accent du bonhomme. Il ne remarqua pas la voiture qui, garée sur le quai depuis des heures, venait de démarrer à son passage et s'apprêtait à débouler derrière lui, tout feu éteint. Sur le perron de l'hôtel des Bergs, les voituriers entendirent soudain un bruit de frein, puis des cris provenant du quai. À quelques pas de là. Ils s'y précipitèrent. Un piéton,
venait d'être renversé par une voiture.